Joyeuse fête des mères! C'est qui les mamans? Levez la main. Ah, quand même! Super! On a des cadeaux pour vous tantôt. Oui. Mais on va se plonger dans la parole de Dieu et je dirais comme introduction aujourd'hui, on va regarder un tableau. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sermon portrait. Et vous connaissez cette madame? Qui la connaît pas? Non, ben elle est morte depuis longtemps aussi, là, mais qui la... Qui, ça vous dit quelque chose? Ce regard mystérieux, ce sourire énigmatique. C'est la Joconde. C'est un tableau de Léonard de Vinci. Imaginez-vous donc qu'il a pris 3 ans pour faire ce tableau-là. C'est pas un énorme tableau, là. C'est comme à peu près large comme ça et haut comme ça. Fait que c'est quand même pas si gros que ça. Et si vous voulez le voir en vrai de vrai, il est au Louvre à Paris. Donc, partez de bonne heure, parce que c'est pas à porte. Mais Yannick, présentement, est en Europe et peut-être qu'il pourra aller le voir lui-même et nous dire son appréciation de la vraie affaire. Ça a pris 3 ans à Léonard de Vinci pour peindre ce tableau-là et apparemment, la légende, là, évidemment, c'est des rumeurs, mais il a porté avec lui partout où il allait durant ces 3 ans-là parce qu'il y avait toujours des petites retouches à faire ici et là. C'est probablement l'épouse d'un homme qui s'appelait Francesco del Giocondo. Bon accent? Del Giocondo. D'où la Gioconde. Et son nom, c'est Lisa Geraldini. C'est Lisa, Mona Lisa, la Gioconde. Donc, beaucoup de retouches. De Vinci a dû le terminer à un moment donné à contre-cœur, apparemment, parce qu'il y avait encore des choses. Et on va voir aujourd'hui que ça ressemble pas mal à notre réalité. C'est un enseignement pour la fête des mères. On va dans le Proverbe 31, hein, la femme vertueuse. Fait que c'est pour les mamans à devenir, et j'ai des petits bonbons pour les hommes. Donc, on va voir, il y a 3 points. Un avertissement au début, on va lire le passage. Josiane va nous lire le passage. Il y aura un avertissement. Puis ensuite, on va avoir 3 points, c'est-à-dire qu'on va dépeindre le portrait de la femme vertueuse, les mains, la bouche, le cœur. Et à chaque étape de cette peinture-là, ou ce beau portrait, on va voir un peu la vision d'ensemble du grand maître, Dieu. On va voir comment cette femme du Proverbe 31 se dépeignait à travers ça. Et on va chercher, et c'est là l'application pour chacune de vous, je vais dire de nous, mais bon, pour les dames, et c'est aussi bon pour les gars, là. C'est quoi ta palette de couleurs à toi? Parce que c'est clair que Dieu veut dépeindre quelque chose, mais on va voir ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Et évidemment, je l'ai dit, chacune des parties, les 3 parties, les mains, la bouche, le cœur, termine avec un petit bonbon, une petite friandise pour les gars. Je vous oublie pas, les boys. Mais ça me disait, tu sais, quand je faisais l'enseignement, quand j'écrivais, je me disais, ouais, ça me parlait. Puis je me disais, OK, je vais lui partager ça. C'est bon, hein? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts ce matin? Donc, si je résume l'enseignement, une femme qui a de la vertu, c'est une femme qui expose Jésus. On pourrait presque écrire une chanson avec ça. Donc, une femme qui a de la vertu, c'est une femme qui expose Jésus. On prie, et Josiane va venir nous lire ce bel extrait du Proverbe 31. Merci Seigneur pour ta grandeur, ta bonté. Tu nous dépeins chacun de nous, tu nous transformes à ton image. Je te prie ce matin de nous parler aux mamans, parler aux jeunes filles, aux femmes, aux grands-mères. Parler aux hommes, en fait, parle-nous. Notre cœur est ouvert. On dit, Seigneur, parle, tes serviteurs écoutent. En ton nom, nous te prions. Amen.
Bon matin. Le passage de ce matin est lu dans le livre des Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 31, dans la nouvelle édition de Genève. Proverbes 31, versets 10 à 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin, de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est vêtue de force et de gloire. Elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite virtueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent.
Il y a quelque chose là-dedans. Mais il y a un avertissement avant de poursuivre. On pourrait prendre une voile avec de l'écho, là. Avertissement. Plutôt, ce que n'est pas une maman vertueuse ou une femme vertueuse, c'est pas nécessairement une performante. Il y avait un ami qui appelait ça Tascatron. Tascatron? C'est-à-dire quelqu'un axé uniquement sur les tâches. Ou une Wonder Woman, même si ici on voit quelqu'un qui est assez performant, merci, qui fait des couvertures, qui fait des chemises, qui plante des vignes, qui achète des champs, fait des ceintures, les vend. Qui fait tout ça ici? C'est quand même quelque chose. Ce qui est important dans ce passage-là, c'est pas autant ce qu'elle fait que ce qu'elle est. Et Dieu, lui, nous peint chacun de nous à sa façon, avec la palette de couleurs qu'il nous a donnée, tout ça en voulant reproduire le portrait de Jésus. Jésus, mais aujourd'hui, on vit à une époque où la performance, c'est un peu comme la reine ou la règle, des fois, et on sent mal si on n'est pas assez performant. Et je dirais, pour les femmes, il y a une coche de plus, là. Les gars vont dire, ben voyons, ils capotent un matin. Là. Non, non, c'est pas simple. C'est pas toujours simple. Maman parfaite, mère parfaite, femme fatale aussi. Des fois, on espérait qu'elle soit mieux que Jésus lui-même. Puis évidemment, il faut qu'elle soit instagrammable, pas de filtre, s'il vous plaît. C'est une pression sociale énorme, réellement. Et puis, c'est pas toujours évident, même dans l'Église. Beaucoup d'attentes, on met la barre haute. Il y a même des gens pour dire, et vous avez certainement déjà entendu ça, la place de la femme est à la cuisine. Vous avez pas vu la vidéo? Non. Il y a quelqu'un qui dit ça sur les internets. Quelque chose de réducteur, de méprisant et de misogyne. C'est absolument pas ce que signifie être complémentarien. Être complémentarien veut dire égal dans leur valeur, mais différent dans leur rôle. Super important ce matin. Donc, pour voir l'intention du Créateur, du Grand Maître, de Dieu lui-même, il faut gratter la couche, la première couche de peinture pour aller voir ce qui est en dedans. Ça vous est déjà arrivé? Mettons que tu as un bicycle. Puis là, ben, tu enlèves une première couche, tu t'aperçois qu'il était vert avant. Puis là, tu enlèves une deuxième couche, et puis ça finit, à un moment donné, tu as eu comme 5-6 couleurs. Ben, avec Dieu, ne faut pas se fier à ce qu'on voit, il faut plutôt regarder au cœur des choses. Ce que Dieu veut produire, le chef-d'œuvre que Dieu veut reproduire, c'est Jésus-Christ lui-même. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, donc, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, on pourrait dire peinturés, à la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Donc, le piège, avec le portrait de la Proverbe 31, c'est de se comparer et de se dire « My, j'y arriverai jamais. » Tu sais, je ne serai jamais capable de faire autant d'affaires de... C'est-à-dire, il faut que tu ailles prendre un cours de ceinture, un cours de couverte, un cours de chemise, un cours de chant, un cours de plantage de vignes. Puis là, il y a des servantes. Ça te prend des servantes, des servantes. Non, tu comprends que c'est ça le piège. C'est qu'à un moment donné, on va se mettre une pression sur tout ce qu'il faut faire, quand finalement, un peu comme Marthe et Marie, ce qui était important, c'était d'être au pied de Jésus, de se laisser transformer. Fait que ce matin... C'est là qu'on va. On va repeindre cette femme selon Dieu, mais on va essayer de voir les couleurs ou la palette de couleurs qui t'appartient à toi ce matin. Donc, on part. C'est parti. La première chose qui vont être peintes, c'est les mains. On parle des mains de Jésus, évidemment. Cette femme-là, exceptionnelle, on le voit, elle est hyper active. Elle a beaucoup d'énergie, mais... L'emphase est mise sur le verset 30, c'est une femme qui craint Dieu. Sa force, sa dignité ne viennent pas de ses réalisations, mais de ses actions, mais plutôt de sa crainte de Dieu, c'est sa vénération. Sa crainte de Dieu est là, c'est sa beauté. Le concept général, c'est-à-dire le portrait général où Dieu veut aller avec ça, c'est être les mains de Jésus, c'est être l'exécution, le toucher, le concret. Et la Bible nous dit qu'on est tous, en quelque sorte, une partie du corps de Jésus. Tu n'es peut-être pas nécessairement ses mains, mais tu es peut-être autre chose, son nez, ses yeux, ses oreilles. On a tous des dons, des talents différents. 1 Corinthiens 12:12 dit, « Comme le corps est un et a plusieurs membres, et que comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Il y en a qui peuvent être bons ou bonnes pour le bricolage, les rénaux, peinturer, ça peut être la cuisine, la mécanique, mais il y en a d'autres, ça va être enseigner, prendre soin. On s'entend qu'il n'y a personne de parfait, là. Cette femme-là, du Proverbe 31, c'est quoi ses couleurs à elle? C'est quelqu'un qui travaille. C'est une machine, il faut se le dire. Hein? Quand on lit ça, c'est vraiment quelqu'un qui travaille beaucoup. Travaille volontiers, comme j'avais déjà lu. Proverbe 31, versets 13, 14, 15. Hein, « Elle se procure de la laine et du lin, travaille d'une main joyeuse, pareil à un navire marchand. » C'est quand même... pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle déplace de l'air. Son travail est fructueux. Elle a des résultats même dans son travail. Donc, elle travaille bien. C'est efficace. Proverbe 31. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. Ce qu'elle fait, ce qu'elle produit, c'est « Oh, wow, c'est merveilleux! » Proverbe 31:18. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas durant la nuit. Elle est proactive, elle n'a pas peur. Verset 21, elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des habits en fin lin et en pourpre. Verset 24, elle fait des chemises et les vents et elle livre les ceintures aux marchands. Elle a du leadership, de l'entrepreneurship. Elle pense à un champ, verset 16, et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. C'est essoufflant! Donc, c'est facile de prendre cette description-là et de sentir une pression comme quand on regarde les réseaux sociaux. Tu sais, quand on regarde les réseaux sociaux, des fois, on se dit, ah, tu sais, ils sont rendus là-bas, ils sont là. Tout le monde a l'air parfait, ces réseaux sociaux. Puis là, à un moment donné, ça te met une espèce de pression décourageante. Tu dis, j'y arriverai jamais. Mais c'est justement, c'est pas le but de la chose. Elle, c'est ses couleurs à elle. Ça peut facilement devenir une source de découragement. Je ne suis pas en train d'encourager une paresse ou quoi que ce soit. C'est juste que cette personne-là qui est décrite là, c'est ses couleurs à elle. Elle connaît ses dons, elle connaît ses talents, elle les met au service de sa famille et de sa communauté. Et je dirais que pour toi, pour apprendre à connaître ta palette de couleurs à toi, là, je dis, apprends à te connaître. Connais-toi, connais tes talents, tes dons et tes limites. Tu sais, ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui, ici et maintenant. Tu sais, de ne pas essayer d'imiter quelqu'un d'autre, mais de plutôt être la personne que Dieu veut que tu sois. Et on a énormément de pression aujourd'hui, et j'en entends de tous les côtés, de la part des femmes, où on se met de la pression, parce que cette pression-là ne vient pas nécessairement de ce que Dieu me demande. Moi, je pars avec l'idée que quand tu fais ce que Dieu te demande, le résultat va être de la joie. Pas nécessairement d'être productif. Mais il va avoir de la joie parce que c'est cet esprit qui procure cette joie-là. On parle d'une joie véritable. Là. Pas juste la joie d'avoir un beau travail accompli. Ça, c'est des joies éphémères parce qu'après ça, il faut que tu recommences le lendemain. Mais la joie qui vient de l'esprit est une joie profonde, une joie fondée sur une assurance en Dieu. Donc, je dirais quelque part, pour prendre le temps d'essayer de faire le ménage dans l'Instagram intérieur, puis de dire, non, ça, c'est qu'est-ce que Dieu me demande, comme toi, comme maman, comme jeune fille, comme jeune femme, comme grand-maman, qu'est-ce que Dieu te demande? Et ça, c'est personnel. Puis accepte tes limites, ce que tu es et ce que tu es, ce que tu as, c'est amplement suffisant pour accomplir ce que Dieu te demande aujourd'hui. Demain, on verra. À chaque jour, suffit sa peine. Que ce soit dans ta famille, dans ton église, dans ta vie en entier, il faut arrêter de se comparer, arrêter d'aspirer à être genre la superwoman ou la Wonder Woman idéale qu'on a l'impression qu'on aimerait être. Briser cette pression et accepter même nos limitations, ça peut être la fatigue chronique, fibromyalgie, ça peut être la maladie, ça peut être, je ne sais pas, le découragement, même la dépression. Bon, elle, Madame Proverbe 31, Madame Vertueuse, on va l'appeler comme ça, à drive. Bon, ben, je pense pas qu'elle souffre de fibromyalgie. Ben, c'est sûr que si tu souffres de fibromyalgie, il y en a près une femme sur quatre, là. Ben, ça se peut que tu te sentes un peu mal. Non, découvre ce que Dieu veut à travers toi, à travers ta maladie, à travers ce que tu es, et de plutôt casser l'insatisfaction de ce que je suis. Tu comprends? Parce qu'il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de burn-out, beaucoup de découragement, beaucoup de dépression qui vont prendre leur source dans cette insatisfaction de ce que je suis. On se met dans un miroir, puis on aimerait voir quelqu'un d'autre, puis on refuse ce que le miroir nous transmet, plutôt que de juste l'accepter, parce que ce que tu es, c'est ce que Dieu a voulu bien faire de toi aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui? C'est une question ouverte, qui te demande de l'introspection, qui te demande de prendre le temps, prendre du temps avec Jésus. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as à offrir pour ce que tu as à faire? Prends le temps d'y réfléchir, de prier, puis, ben, vas-y avec tes petits pains puis tes petits poissons. Hein? Tu prends tes pains, tes poissons, puis là, tu les donnes à qui? Ben, c'est sûr que si tu les donnes à tes enfants, ils vont tous bouffer. Là, mais donne-les à Jésus. Jésus, il va être capable de faire quelque chose d'incroyable avec ces petites capacités-là que tu as l'impression que tu as. Mais surtout, arrête de te comparer. Arrête de te comparer. Je trouvais que c'était un passage idéal pour arriver là aujourd'hui. Bon, petit bonbon pour lui. J'aimerais vous parler de la vaisselle. Moi, j'aime pas faire la vaisselle. J'ai appris à aimer à faire la vaisselle. C'est une histoire que ceux qui me connaissent connaissent, parce que j'aime la raconter, parce que pour moi, c'est significatif. Avant de rencontrer ma femme, je faisais rarement la vaisselle. Ou des fois, je mangeais dans le chaudron. Ou des fois, quand ça commençait à bouger là, dans le lavabo, je pense qu'il est temps qu'on fasse venir un exterminateur, quelque chose. Tu sais, c'était pas là, mais ça aurait pu avoir la tendance à. Et ma femme, elle aime ça faire le ménage. C'est beau chez nous, c'est propre. Et j'en suis très content. Le vendredi, c'est journée ménage. Personnellement, je pourrais passer une semaine. Peut-être deux. Mais savez-vous quoi? J'aime ma femme. C'est pas juste écrit sur ma licence d'auto, là. J'aime ma femme. J'ai appris à aimer à faire la vaisselle. J'ai appris à aimer à faire le ménage le vendredi. Et même le vendredi, je veux couper ma journée. Je prends même les tâches les plus dégueulasses à mon goût à moi. Je vais en faire les toilettes, là. Tu sais, récurer à bol, puis tout. Pourquoi je fais ça? Parce que si je le fais pas, c'est qui va le faire? C'est elle. C'est simple de même. Donc, c'est important, les gars, de vous dire que c'est pas une Wonder Woman que vous avez mariée. Puis si t'es célibataire, ça, c'est une autre affaire, là, je m'égare, là, mais je vois des gars qui attendent d'avoir, je sais pas trop, la Proverbe 31, mais qui a 18 ans, tu sais. Les gars, ils arrivent à 35 ans, ils disent « Je comprends pas, j'ai trouvé personne encore. » Peut-être que tu mets la barre un peu haute, là, tu sais. Puis peut-être que toi aussi, tu es victime de ces pressions-là qu'on voit. Les gars, déniaisez-vous. Ici, là, il y a des femmes vertueuses. Des vraies. Des femmes incroyables. J'arrête ça, là. Galates 2, 18. L'Éternel Dieu dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui. Le mot « aide », là, c'est « à l'aide ». C'est un secours. Vous avez déjà entendu ça? C'est vraiment un secours. On était vraiment mal pris tout seul, les boys. Donc, Dieu a dit, « C'est vraiment pas bon que tu sois tout seul. Ça va mal virer, cette affaire-là. Je vais créer une aide, c'est-à-dire un secours, venir à son secours, qui va être son vis-à-vis. » Tu comprends? Jusque dans la vaisselle, jusque dans le ménage. Je pense pas que j'ai besoin de faire des gros dessins un matin. Hein? On parle de peinture. Fait que les mains de Jésus, pas de pression, s'il vous plaît. On parle de la bouche de Jésus. La bouche, hein, au cœur du visage. Si tu enlèves la bouche d'un visage, tu vas voir que ça va faire très bizarre. Je dirais qu'il manque comme l'âme, c'est comme les yeux, c'est fou. T'sais. Donc, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et ce qui va sortir de notre bouche, bien souvent, ça va être le miroir de ce qu'il y a à l'intérieur. Le concept du grand maître, de Dieu, c'est d'utiliser notre bouche pour le glorifier, d'une manière ou d'une autre. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez pas le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. C'est fou, hein? La bénédiction. On a été appelés à utiliser notre bouche comme un outil de bénédiction. C'est un gage de notre héritage. On l'a vu dans notre série sur Jacques. Comment la bouche peut être un feu épouvantable. Ça peut réchauffer, hein, comme le feu, comme ça peut détruire, comme le feu. On l'a vu la semaine passée, que nos paroles soient teintées de toute la sagesse qui vient de Dieu. Comment elle, c'est quoi ses couleurs à Madame Vertueuse? C'est intéressant. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle a de la sagesse par ses conseils. Bien, on le voit déjà dans les premiers versets du Proverbe 31. Là, parole du roi Lémuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Hein, que, elle a beaucoup... Sa mère avait beaucoup de sagesse, sa femme a beaucoup de sagesse. Bon, est-ce que c'est quelque chose qui est génétique? Bien, absolument pas. Ça a un lien avec la crainte de Dieu. Donc, elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle est remplie de sagesse parce qu'elle craint Dieu. Et elle enseigne parce qu'il y a En fait, il y a une mauvaise conception de l'enseignement. Là, ici, souvent dans l'Église, on a l'impression que les femmes ne devraient pas enseigner. Et je suis content qu'aujourd'hui, on a franchi un peu un certain cap. Vous savez, il y a des conférences avec Sola pour qu'on puisse découvrir la théologie, cette théologie qui est offerte aussi pour les femmes. Quand je dis ça, c'est parce que pendant longtemps, il y a eu comme une espèce de clivage. On disait non, tu sais, ça faisait très rétrograde de ce côté-là. Mais c'est tellement primordial pour tout le monde de développer cette théologie. Le mot théologie veut dire, dans le fond, le discours de Dieu, connaître Dieu. Et plus tu connais Dieu, plus tu le crains. C'est primordial d'approfondir sa connaissance de Dieu et de le transmettre. Ses yeux sont attentifs aux opportunités. Elle utilise même ses paroles pour faire fructifier, négocier et diriger. Par exemple, Proverbe 31:16, elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, elle utilise ses mots pour amener à un point B. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle dirige sa gang, on va dire ça de même. Elle a une sagesse prévoyante. Elle agit et dirige. Et même son travail, elle applique cette sagesse-là dans le quotidien par ses paroles. Et ça va même plus loin que ça parce qu'elle provoque même des paroles de louange. Proverbe 31:28, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari aussi, et il chante ses louanges. C'est fou. Maintenant, c'est quoi les couleurs que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu veut peindre avec toi? Ça, c'est un modèle. Je dirais la première chose à retenir, c'est que la sagesse, c'est rarement instantané. C'est rarement instantané. La sagesse vient de Dieu. Et ça vient avec l'expérience, ça vient avec la souffrance, et ça vient avec la connaissance. C'est les 3 ans de Léonard de Vinci en train de faire les retouches sur sa Joconde, et c'est un peu les dizaines d'années que Dieu va passer à faire des retouches sur ton caractère. Hein? Il fait des traits, il fait des retraits, d'un côté comme de l'autre, c'est comme en peinture, c'est comme dans la vie. Dieu ajoute, Dieu enlève des choses pour que, tranquillement, on soit bonifié à l'image de Jésus. C'est l'idée en arrière. Fait que je dirais donc, si tu veux être la bouche de Jésus, on va prendre juste le principe biblique. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, on part avec le principe qu'on n'en a juste pas et de dire à Dieu, « Dieu, j'en ai besoin. » C'est déjà une première étape, là. Tu sais, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Seigneur, je soupire après ta sagesse. Je cours après la sagesse. Je la veux. Je veux que mes paroles soient remplies de sagesse. Je veux plus que ma bouche se mette à déblatérer du commérage, de la médisance, de la calomnie. Même quand on dit que c'est juste des faits, là, on le sait exactement que souvent, ça n'a rien à voir avec la sagesse qui vient d'en haut. Pense, mettons, à la bouche, quand on lit, mettons, le verset de Jacques, chapitre 3, versets 17 et 18, constate ça avec la bouche, tu sais, la sagesse qui vient d'en haut, les paroles qui viennent d'en haut, premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ce désir de la sagesse-là est au cœur même de ce que cette femme-là de Proverbe 31 nous expose, c'est-à-dire quelqu'un qui craint Dieu. Quand on craint Dieu, on développe notre théologie, on cherche sa personne à travers sa parole, on veut creuser la parole pour pouvoir y trouver la sagesse. C'est aussi simple que ça. Et il ne faut pas penser que c'est instantané. La sagesse, ça se bonifie avec les années. Fait que sois pas découragé si tu as 17 ans et tu dis « Aïe, 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 je manque de sagesse. » C'est fort possible. La courbe naturelle pour un chrétien normal, c'est d'augmenter en sagesse avec les années. Ça vient comme ça. C'est normal parce que plus on vieillit, plus on apprend à se découvrir, plus on apprend à se connaître, plus on découvre Dieu, plus on apprend à le connaître. Plus on voit comment on interagit ensemble, lui puis nous, plus on souffre, plus on apprend à pardonner, plus on apprend à aimer, plus on apprend à connaître Dieu. finalement, plus on devient sage. Tu sais, c'est juste d'accepter, je dirais, l'échéance de la vie et de me plonger dans sa parole pour comprendre et connaître la sagesse. C'est pour ça que ses paroles étaient remplies de sagesse et son enseignement plein de bonté. Elle n'enseignait pas pour faire valoir ou pour essayer d'écraser par sa connaissance, mais parce qu'elle avait une soif de transmettre Jésus. Bon, j'ai marqué « bonbon pour homme ». Je voulais juste dire que le mot « mémère » n'est pas uniquement féminin. On dit « une mémère », j'ai vu aussi beaucoup de « un mémère ». Il y a autant de médisants que de médisantes. C'est juste que ça s'exprime différemment. Hein? Les gars, ils... les filles, t'sais, au bout de la ligne. Je veux juste vous dire, les gars, que notre bouche, c'est un outil. Dieu nous donne un outil fantastique. Ça s'appelle la bouche. Et on a cette liberté de l'utiliser pour maudire ou pour médire. Bon, vous partagez une petite tranche de vie. Tous les matins, pratiquement, avec sauf exception des fois, mais tous les matins, Julie puis moi, on est dans le salon, puis là, on prend notre café. Puis savez-vous qu'est-ce qu'on fait? Bien, souvent, on lit la Bible, on fait notre débauche. Julie écrit ses prières, puis là, on partage souvent, on partage des choses qui nous ont frappés, qui nous ont touchés, soit dans la Bible, soit dans la vie. Julie me partage sa sagesse. Julie m'aide beaucoup dans ce que je suis. En fait, l'étude de ce matin a été tirée beaucoup d'une étude qu'elle a donnée il y a une couple d'années sur Proverbe, une femme sur son 31. Ça s'appelait comme ça. Oui, ça dirait, mon gars, demande conseil à ton épouse, écoute, t'as tout à gagner. On est une équipe et on n'a pas à craindre là quand on est une vraie équipe. Quand l'amour nous unit, on n'a pas à craindre de se reprendre même mutuellement. Si vous venez dans mon bureau, les gars m'ont fait une blague. Yannick, à un moment donné, m'a trouvé sur Marketplace un monsieur patate. Parce que j'ai la parole facile et ouais, j'ai un sens de l'humour. Et des fois, mon sens de l'humour peut être douteux. Ça vient avec la parole facile. Hein? Quand on parle beaucoup, on ne manque pas de péché, je ne m'en vante pas, j'en ai honte. Je dirais que peut-être que la sagesse, justement, mes enfants m'ont dit « ouais, ça va de mieux en mieux ». Merci Jésus. Mais à un moment donné... Bien, c'est toujours après, là, tu dis « Ah, j'aurais pas dû dire ça. Ah. » Puis là, on s'était entendu, et on s'est toujours entendu, ma femme puis moi, quand elle me connaît bien, là, quand elle sent que je déborde ou que je suis pour dépasser la ligne, tu sais, il y a une ligne, là. Elle me dit « Patate. » Patate. Là, je le sais. Ça me frustre pas. Je me fie à son jugement. Je sais que dans bien des situations, elle a plus de sagesse que moi. Et puis, je ne veux pas y faire honte. Fait que ça fait partie de l'équipe qu'on est. On n'a pas à craindre de se reprendre mutuellement. Quitte à des fois, on est une équipe. Fait que, écoute, si tu vois que je déborde, que je dépasse la ligne, dis-moi là, un petit mot, patate. Fait que quand vous allez dans mon bureau, vous allez voir M. Patate, vous allez comprendre c'est quoi l'idée. Ça m'aide à me rappeler. Attention. Fais attention. Surveille ta bouche, mon ami. Donc, on a dépeint les mains, on a dépeint la bouche. Là, on va aller en dessous de la peinture, on va aller dépeindre le cœur. Le portrait se dessine, se précise. Hein? On commence à comprendre un peu par rapport à Madame Virtueuse et par rapport à toi ce matin. Le portrait se dessine, main, bouche et là, le cœur. Le concept, c'est-à-dire le grand maître, lui, où il veut aller avec ça. Bien, c'est Philippiens 2.5, « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » C'est-à-dire, ce qui doit être le moteur à l'intérieur, c'est Jésus. C'est l'Esprit de Dieu. Dieu veut faire un portrait de Jésus avec toi, mais il veut garder tes couleurs, tes talents, tes dons, tes capacités. Et c'est là la grandeur du maître. Il y arrive. Quand on voit des chrétiens matures, puis on voit Jésus à travers eux, mais en même temps, on voit eux à travers eux. Et ça, c'est toute la grandeur de Dieu là-dedans. Dieu veut faire un portrait de Jésus avec tes couleurs. Il veut exposer ta palette de couleurs. C'est toujours sur le même thème qui est Jésus. C'est-à-dire l'humilité, le pardon, la miséricorde, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Honnêtement, je repensais, et il y a beaucoup de gens qui divorcent. En fait, la majorité, presque tous les divorces sont en raison d'un manque d'humilité, d'un manque de pardon ou d'un manque de miséricorde. Je ne vois pas d'un bord ou de l'autre ou des deux côtés. Voyons comment la femme de Proverbe 31 s'en tire là-dedans. Comment elle vit ça? C'est quoi ses couleurs à elle? Bien, premièrement, son cœur est fidèle au Seigneur et à son mari. Proverbe 31, versets 11, 12 et 23. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et c'est tout bénéfice pour elle. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Verset 23, son mari est reconnu aux portes de la ville lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Il y a un proverbe qui dit, ou un dicton, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. C'est un peu ce qu'on voit là. Il y a une espèce de synergie et ce qu'on appelle la soumission de la femme, c'est vraiment un travail d'équipe. Elle est bien comprise. Distinction des rôles, il y a une confiance mutuelle, une intention profonde de rendre l'autre heureux, autant elle vers lui que lui vers elle. On se rapporte à l'époque, là. Il laisse toute la liberté de s'épanouir dans ses entreprises. Il l'écoute comme son égal. Il prend ses conseils, son enseignement, sa sagesse. Le résultat est évident. Ça teinte même la réputation du gars. Quand il est aux portes de la ville, il est reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils sont deux à prier, parce qu'ils sont deux à réfléchir. Ils sont deux à agir, et comme ici, tous les jours de sa vie, jusqu'à la mort. C'est la beauté d'être deux. Pourquoi pas en profiter? On voit aussi son attitude devant la Providence. La Providence, elle a une assurance de la Providence. Le verset 1 commence, elle se procure de la, verset 10, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Verset 25, la force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant à l'avenir. C'est intéressant parce que quand elle travaille, la couleur de son labeur, c'est la joie. Elle est de bonne humeur. Elle ne chiale pas, elle ne bougonne pas. Elle est de bonne humeur. Elle aime ce qu'elle fait. Et c'est son attitude plus profonde qui vient nous montrer où attire cette source-là. Elle rit en pensant à l'avenir. Le mot « rire » ici, là, c'est vraiment chanter, danser, sourire. C'est vraiment... Il y a quelque chose de réjouissant là-dedans. Là. Quand elle pense à l'avenir... Elle se réjouit, est heureuse, c'est parce qu'elle craint Dieu. Et quand on craint Dieu, on a l'assurance que chaque lendemain va être sous son contrôle à lui, et j'y fais complètement confiance. C'est l'idée. Ton cœur est ouvert. Au verset 20, on dit, elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres. Cette miséricorde, cette compassion, elle a comme des yeux radars en action. Bien, c'est... le portrait de quelqu'un qui ne s'en fait pas avec la vie et qui sait ce qu'elle est et qui a confiance pleinement en son Dieu jusqu'à ne pas avoir peur de perdre et d'aider même les gens plus démunis. Pour toi, là, c'est quoi tes couleurs là-dedans? Romains 5:5 dit « L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Je dirais d'un premier temps, le coffre à outils est déjà tout là. Quand tu as donné ta vie à Jésus, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Ce qui n'est pas rien, là. Tu sais, l'amour de Dieu. On fait juste penser un peu, là. Si tu prends l'amour, Oui, c'est beau. L'amour de Dieu. Mais là, il n'y a comme pas de limite, là, les dimensions de l'amour de Dieu, c'est infini. Bien, cet infini-là est dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'a été donné. Et le Saint-Esprit, il est là et il veut vraiment s'extérioriser. Donc, cette sagesse, c'est d'apprendre à laisser Dieu faire le travail. Parce que lui a beaucoup plus d'expérience et de bon sens que nous. Son cœur a appris à laisser Dieu s'exprimer et vivre la vie avec joie dans la soumission et la miséricorde. Bon, je dis ça pourquoi? Et là, on n'est pas loin de l'éditorial, là, mais c'est correct. T'sais. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu beaucoup de femmes prises avec des gars qui n'étaient pas toujours sages, dont le cœur n'était pas toujours nécessairement une expression de l'amour de Christ. Et ce n'est pas facile dans ces moments-là de vivre la soumission, la confiance, puis de rire en l'avenir. C'est une réalité. Je me souviens d'un film qui s'appelait « Facing the Giant », je ne sais pas trop en français. En tout cas, c'est l'histoire d'une équipe de football. C'est un film chrétien. Puis c'est une équipe de football, et là, il y a un jeune dans l'équipe qui a des parents vraiment, vraiment pas cool, vraiment pas fin. Vraiment, vraiment pas fin. Et il rush avec l'idée de « Honore ton père et ta mère ». Et on peut comprendre. Et là, le coach qui vient le voir, il dit, tu sais, quand Dieu nous demande d'honorer notre père, notre mère, ça n'a pas rapport avec la question de « Est-ce qu'ils sont honorables? » Ça a rapport avec « Dieu me demande de les honorer. » Et si je les honore, Dieu va me donner la force de les honorer. Et ça, ça m'avait vraiment enseigné cette journée-là. OK, ça ne dépend pas du taux d'honneur, ça dépend de Dieu lui-même. Comment être une femme vertueuse quand les moments sont plus difficiles? Je dirais, baisse les armes. Laisse Dieu être ton libérateur. Personne ne peut t'enlever la dignité que Dieu t'a donnée. Tout commence avec ta prise de conscience de ton identité en lui. Qui es-tu, madame, ce matin? Une femme de Dieu, une reine, hein, la fille du roi. Je dirais qu'il faut demander à Dieu de nous convaincre de ça. Et comme je le disais au début, il y a tellement de pression qu'on est très, très focusé sur le « qu'est-ce qu'il faut faire » plutôt que « qu'est-ce qu'il faut être ». Vis ta vie comme si c'était la seule que tu as afin de faire briller Dieu autour de toi. Si tu es marié avec un homme de Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus. Glorifie Dieu. Prie pour ton mari. Vis avec ton mari. Fais une équipe avec ton mari. Si tu es marié avec un homme qui, des fois, défie la soumission et le respect, je te dirais, tiens bon, qui sait si tu ne gagneras pas ton mari à Christ? 1 Pierre 3:2. Hein? Puis si des lignes sont franchies, tu comprends ce que je veux dire? En termes de verbal, physique, demande de l'aide. C'est simple. Bon, petite épice pour lui, un peu piquant. 1 Pierre 3:7. Marie, montrez à votre tour la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bon. J'avais un défi rendu là, parce que je me disais, j'avais de la misère à imaginer la femme de Proverbe 31 comme une petite fleur fragile avec des pétales chambranlantes, là, tu sais, un sexe plus faible. Fait que je suis allé voir les commentaires, et je suis allé voir le commentaire de John MacArthur, précisément John MacArthur, parce qu'il est très, très conservateur. Fait que je dis, j'ai hâte de voir ce que lui va dire, et je veux vous lire ça. Je vous lis le commentaire de ce passage-là. Montrer de la sagesse signifie, pour notre femme, lui être sensible et prendre en compte ses besoins physiques et émotionnels intimes. Un mari croyant doit également faire preuve de galanterie envers son épouse. De même que la soumission n'implique pas l'infériorité du soumis. La qualification de « plus faible » ne veut pas dire que la femme est plus faible que son mari dans son caractère ou dans son intelligence, ni que les femmes sont spirituellement inférieures aux hommes. Tout ce que cette tournure veut dire, c'est que les femmes possèdent généralement une force physique moindre. À la lumière de cette remarque, les maris chrétiens ne devraient ménager aucun effort pour protéger leurs épouses et pourvoir à leurs besoins matériels. Surtout que dans le contexte où Pierre a écrit ça, il y a quelques milliers d'années pratiquement, là, une femme puis un chien, c'était pas loin. Là. Si tu avais un bœuf qui était productif, tu pouvais le mettre dans ton échelle de valeur plus haut que ta femme. Là. Tu pouvais répudier ta femme pour n'importe quel sujet, n'importe quoi. Tu avais droit de vie ou de mort sur ta femme. Et c'était régulier qu'il y avait des hommes qui battaient leur femme pour n'importe quoi. Filait pas un matin, s'est levé, j'ai le goût de fesser sur quelqu'un, et là, bang! C'était aussi capoté que ça, là. Fait que quand on se met dans le contexte, là, on comprend. Il y avait une culture, là, une culture de domination très physique. Considérez vos femmes comme fragiles. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Et là, il y a une promesse qui est intéressante, un avertissement même qui est très clair. Qu'il en soit ici, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. L'avertissement est clair. Ta vie spirituelle puis ta relation avec Dieu dépend de la façon dont tu te comportes avec ta femme. Ça ne peut pas être plus clair que ça, les gars. Bon. Les musiciens, venez-vous-en. Ben oui, parce qu'on va louer le Seigneur, là. OK, bonne fête des mères, les mamans. On a vu un sermon portrait ce matin. C'est une femme fantastique, cette femme-là, la virtueuse de Proverbe 31. Mais le but n'était pas de nous dire « voici une liste de choses à faire pour être une femme virtueuse », mais plutôt « comment être ». Comment son cœur est? Et là, on voit que sa crainte de Dieu, c'est la clé même. Et pour toi, ce matin, j'espère que c'est clair, c'est quoi tes couleurs à toi? C'est quoi tes couleurs? Dieu veut que tu sois une femme virtueuse. Dieu est en train de former en toi une femme virtueuse. Que tu sois mariée ou pas, Dieu t'amène là parce que Christ est en toi et il veut le dépeindre à tous ceux autour de toi. Que ce soit par tes mains, tes actions, que ce soit par ta bouche, tes paroles ou ton cœur. Hein? On parle d'amour, de soumission, on parle de cœur. Ben, Dieu veut prendre tes couleurs, veut prendre ta palette et il veut que tu brilles, que tu exposes le visage de Jésus dans ta famille, dans ton milieu, dans ton voisinage, au travail. Les gars, je vous ai donné des petits conseils aujourd'hui. Si vous en voulez d'autres, venez me voir. Ça va me faire plaisir. Je dis jamais rien que j'applique pas. Juste comme ça. On termine le proverbe avec le verset 29 à 31. Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi, ben, tu les surpasses toutes. Donc, quand je lis ça, je pense à ma femme. C'est clair. Honnêtement, non, mais c'est vrai. Ça fait 35 ans qu'on est mariés, là, je peux le dire, 35, hein? Dans quelques mois, bon, j'aime ça. Mais sérieusement, j'ai vu Jésus dans Julie se dessiner. C'est merveilleux vieillir avec quelqu'un. Réellement. Je suis juste plein de gratitude envers Dieu. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, le verset 30. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et c'est tellement vrai. La grâce est trompeuse. Hein? Tu sais, peu importe le nombre de likes que tu as eu ou la réputation, ta beauté est vaine. Parce que trop ou tard, la gravité va avoir raison de ta beauté. Ça frippe. C'est comme ça. Oui. Tu sais, cute, les petites pattes de doigts. Oui. Qu'est-ce qui compte vraiment? Aussi bien commencer jeune à investir là où ça compte vraiment. C'est-à-dire, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Prends du temps avec Jésus. cherche-le, fouille-le, va dans les conférences, lis, cherche la crainte de Dieu dans sa parole. Récompensez-le du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Amen. Ben, merci Seigneur pour les femmes de Dieu que tu mets sur notre chemin. On veut ce matin te dire à quel point on est souvent indigne et un peu étranger même à la hauteur même de ce que tu nous demandes. Mais heureusement, toi, tu t'es pas arrêté à ce que nous sommes. Tu es venu toi-même prendre la place. Tu es venu dans notre cœur pour nous permettre de pouvoir vivre ce rêve éveillé-là d'être le portrait de Jésus dans notre quotidien. Seigneur Jésus, je te prie pour les femmes ici ce matin, que Seigneur, tu les amènes à mieux se connaître qui elles sont, ce que tu leur demandes, qu'on puisse briser les comparaisons et la pression. Et pour les gars, Seigneur, fais-nous des maris qui aiment leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, prêts à mourir pour elles. Et pour les jeunes hommes, Seigneur, permets, Seigneur, de les libérer de cette pression sociale qu'on a, qui nous amène souvent à aspirer à quelque chose qui n'existe pas. Le seul parfait, c'est toi. Et la beauté, c'est de vieillir avec quelqu'un et de le voir se laisser transformer à ton image. Merci, Jésus. Amen.